Bonjour à tous et bienvenue sur Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h, Biotine, l'actualité scientifique dans cette émission pendant une heure. Nous faisons un petit peu le point sur ce qui se passe dans le monde, dans les laboratoires du monde entier. Et on parlera également, il y avait deux informations la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'évoquer, donc j'ai un peu l'impression que ça va être assez chargé dans cette émission encore aujourd'hui. Bienvenue à tous, vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, soit pendant la diffusion directe de cette émission, soit en récupérant les podcasts, bien sûr, de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet graphite.net, et puis vous suivez l'actualité bien sûr de Graphite sur la page Facebook, donc même Twitter, enfin bref, maintenant tous les réseaux sociaux accueillent Graphite. Vous n'avez plus aucune excuse pour suivre l'actualité de votre radio préférée, bien sûr. Nous sommes le 6 mars naissance, le 6 mars 1784 à Paris, d'Anselme Gaétan Desmarais. C'est un zoologiste français. En fait, il enseigne la zoologie à l'école vétérinaire d'Alfort et en 1820, il devient membre de l'Académie de médecine. Il fait paraître en fait de nombreuses publications sur les fossiles. Desmarais, c'est un petit peu son sujet de prédilection. Il est donc né un 6 mars 1784. Et pour l'éphéméride en termes de décès, c'est le décès le 6 mars 1931 de Gustav Hartmann, chimiste allemand, qui a réalisé la première synthèse de la vanilline. Vanilline, je crois, hein, en 1874. Il a travaillé avec Ferdinand Thiemann. Il fonda sa société Hartmann, qui est resté un des vecteurs industriels de la parfumerie et de l'industrie agroalimentaire en 1874. Et en 1893, il va déposer un brevet de la fabrication d'ionone et lionone, I-O-N-O-N-E. C'est une molécule qui permet de produire le parfum de la violette. Donc, du coup, en 1893. Donc, la vanille, la violette, voilà, c'est évidemment ça qui a permis de pouvoir mettre en place sa société de parfumerie, d'industrie agroalimentaire, bien sûr, avec tous ses composés. Gustav Hartmann, qui est donc décédé le 6 mars 1931 en Allemagne. Voilà pour l'éphéméride de ce 6 mars. Alors, la semaine dernière, nous n'avons pas eu le temps d'évoquer deux informations qu'il faudrait que je retrouve. Oui, alors la première, celle-ci, que je trouvais assez intéressante, c'est le site Futura qui en parle et se demande en fait si on pouvait essayer de mettre tous les coronavirus du monde. On pouvait regrouper tout ça et on pouvait jeter ça à la poubelle et comme ça, on serait tranquille pour se débarrasser. C'est, ça serait, bon, sur le plan pratique, intéressant, même si c'est rigoureusement impossible de récupérer tous les coronavirus dans le monde et de s'en débarrasser d'un seul coup. Mais en théorie, on pourrait y parvenir si on mettait tous ces coronavirus dans une canette de coca. Et c'est ça qui est intéressant. C'est Christian Yates qui s'est livré à cette étude et à ses calculs et à quelques approximations pour se dire que finalement, tous les virus donc, de cette Covid-19 tiendraient dans une canette de coca. Tous les virus qu'on aurait dans le monde. C'est assez étonnant. Enfin, on se dit, c'est tellement une crise planétaire qu'il devrait quand même y en avoir une quantité faramineuse. Oui, il y a une quantité faramineuse, mais les virus sont tellement petits que si on regroupait tout, on mettrait tout ça dans une canette de coca. Christian Yates a d'abord considéré uniquement pour cette étude les virus qui affectent les humains. Donc on ne parle pas du monde animal, hein, les visons, les chats également qui seraient infectés par ce virus-là. Non, on s'intéresse uniquement aux humains. Il a ensuite cherché à connaître le nombre de virus en circulation. Et donc il a utilisé un petit peu les sites de statistiques, notamment le site Our World in Data. Et on a, d'après ce site, environ un demi-million de personnes qui obtiennent chaque jour un résultat positif au test de la Covid-19. Mais il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas dépistées non plus. Donc on n'a pas tous les éléments, mais en tout cas, si on prend déjà ça, ça nous donne un chiffre. Alors, on fait une estimation, un petit peu une simulation, et on se dit que ça serait à peu près 3 millions, le chiffre réel, qu'on aurait par jour, 3 millions par jour de personnes infectées par ce virus. Deuxième étape, il veut évaluer la quantité de virus maximale qui est portée par un malade à l'instant T. Et donc, Christian Nietz, il s'est inspiré d'une étude qui a été publiée sur le site MedRxiv, qui a calculé le nombre de particules virales par gramme dans différents tissus chez un singe qui était infecté. Et puis, du coup, à partir des éléments qu'il avait sur ce singe, il a fait une extrapolation et il a essayé d'avoir une représentation sur l'homme, je vais y arriver. Et donc, d'après les estimations de cette étude, on s'est dit que les pics de charge virale seraient de 1 à 100 milliards de particules virales par individu. Donc, il prend une moyenne un petit peu géométrique de cet intervalle. Il se dit que par personne, il y a environ 10 milliards de particules virales par personne, quand une personne est infectée. Alors, c'est pas tout, parce qu'on sait bien sûr que cette charge virale, elle augmente progressivement, et puis après, elle diminue. Hein, on a cette espèce de courbe en cloche, un petit peu, avec cette infection qui va culminer le sixième jour, et ensuite, ça diminue. Donc, lorsque l'on additionne toutes les contributions à la charge virale de chacune des 3 millions de personnes infectées par jour, on constate environ qu'il y a 200 quadrillions de particules virales dans le monde à la fois. Alors, des quadrillions, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on va faire une conversion. Des quadrillions, c'est donc 200 quadrillions égale 200 millions de milliards de particules virales. 200 millions de milliards, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors, très simple, il faut essayer d'imaginer, vous écrivez un 2 et vous rajoutez 17 zéros après. Et ça vous donne le nombre de particules virales qu'il y aurait dans le monde. C'est énorme, c'est le cas, et c'est à peu près le même nombre que celui des grains de sable sur la planète. C'est ce qu'estime donc ce mathématicien Christian Nietz. Mais, bien sûr, on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions, par rapport aux grains de sable. Parce que le virus de la Covid-19, il est bien évidemment bien plus petit qu'un grain de sable. Alors, il mesure à peu près entre 80 et 120 nanomètres de diamètre. Alors là aussi, c'est pareil, c'est des chiffres, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, 120 nanomètres de diamètre. Alors, vous prenez un cheveu humain. On voit un petit peu l'épaisseur d'un cheveu humain. Vous le divisez par 1000. Donc déjà, c'est déjà mince, un cheveu humain. Vous divisez ça par 1000 et ça vous donne un petit peu l'épaisseur du virus. Bon, c'est totalement invisible à l'œil nu, nous sommes bien d'accord, bien sûr, mais ça vous montre justement le côté totalement infiniment petit de la chose. Et il va donc essayer de se dire, bon, on a un nombre. On a une idée un petit peu de sa forme. C'est un petit peu sphérique, ce virus. Pas totalement sphérique, mais enfin bon, pour faire un calcul, on va dire que c'est sphérique. Et il a donc calculé en se disant qu'on est à peu près sur un volume d'environ, pour calculer tout le nombre de virus présents à l'instant T dans le monde, on est sur un volume d'à peu près 12 centilitres. 12 centilitres, c'est pas grand-chose. 12 centilitres, c'est quoi ? C'est un verre à moutarde, même pas, je sais même pas. Enfin voilà. On pourrait remplir ce verre de moutarde avec tous les virus qu'on a dans le monde à l'instant T. C'est cette Covid-19. Et donc, il fait un petit peu des calculs en disant qu'évidemment, comme quand vous achetez des oranges, vous n'arrivez pas à bien les tasser. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu des espaces entre les oranges, bien sûr. Donc, pour le virus, ça serait pareil. Donc, en fait, si on remplit précisément une canette de coca, il y a un petit peu d'air, enfin un peu d'espace entre les différents virus. Et donc, la conclusion, c'est que si on arrivait à récupérer l'ensemble des virus présents dans le monde à l'instant T, on aurait à peu près l'équivalent du volume d'une canette de coca. Ça ne fait pas avancer la chose, nous sommes bien d'accord, mais je trouvais que c'était assez intéressant parce que, du coup, on a une idée un petit peu de l'ampleur de cette épidémie par rapport à, finalement, une chose infiniment petite. Enfin, je trouve que c'est un chiffre assez éloquent en termes de volume. Il explique également, et ça c'est une autre représentation qui nous va pouvoir illustrer également l'idée que ce virus, il y en a énormément, mais qu'il est très petit, c'est que si on les aligne bout à bout, les virus, et qu'on fait une petite chaîne, un par un, eh bien on ferait 52 fois la distance Terre-Lune. C'est aussi une autre façon de représenter également la quantité, mais du coup, on les met les uns à côté des autres et on fait 52 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune en termes de distance. Donc, on peut faire 52 fois la distance Terre-Lune et on peut remplir une canette de Coca. Voilà un petit peu les deux représentations qui vont vous permettre d'avoir une idée de ce virus et de la présence de ces virus. Et donc, très petits, bien sûr. Attention, ils sont quand même assez lourds parce que on est en tout cas sur une masse totale qui pourrait atteindre 100 kilos. Donc la canette de Coca, elle serait quand même assez lourde. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne une idée justement de la représentation de ce virus. Très agressif, mais vraiment très très petit également, avec cette étude de ce Britannique Christian Yates, mathématicien à l'université de Bath au Royaume-Uni, qui a donc publié cette étude et qui a été reprise par le site Futura. Voilà, je n'ai pas l'impression que ça va changer le monde, en tout cas la situation sanitaire, ça ne va pas nécessairement trouver une amélioration avec ce sujet-là, mais en tout cas je trouve que c'est une illustration assez intéressante. Autre information la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, c'était les 20 ans du séquençage du génome humain. Le 15 février 2001, les toutes premières bribes du génome humain sont dévoilées dans la revue Nature. Cette publication changera jamais l'histoire de la biologie et de la médecine parce que pour la première fois, l'humanité peut poser un regard sur son ADN, sur ses gènes. Alors, c'est un peu imparfait, mais ce premier séquençage du génome humain a nécessité le travail de plusieurs centaines de chercheurs à travers le monde entier, tous réunis dans le même consortium qui s'appelait The Human Genome Project, donc le projet du génome humain, bien sûr. Le 20e anniversaire de la parution de l'article, donc dans la revue Nature, est l'occasion un peu de revenir sur cette incroyable aventure scientifique qui a commencé à la fin des années 70. Il y a plusieurs chercheurs qui mettent à l'épreuve leur technique de séquençage sur des organismes plus simples avant d'oser de s'attaquer au génome humain et de ses 23 paires de chromosomes. Tout commence au milieu des années 1880. Il y a trois scientifiques qui ont la même intuition. Sans se concerter, il y a Renato Dubelco, qui est prix Nobel en 75 pour la découverte des oncogènes. Il y a Robert Sinsheimer de l'Université de Californie et Charles Delisi qui plaide pour combler un manque important. C'est-à-dire que le génome humain reste un abîme totalement insondable. Et à l'époque, le séquençage génétique n'en est qu'à ses débuts. Les scientifiques se sont frottés à des génomes de certains bactériophages également pour essayer de comprendre comment on pourrait faire. Et au début des années 80, les scientifiques voit un petit peu plus grand en séquençant des génomes de plus en plus longs, bien sûr. Et du côté de l'être humain, on a commencé d'abord à séquencer l'ADN des mitochondries. Alors les mitochondries, c'est un constituant des cellules. On peut considérer que la mitochondrie, je vais jamais y arriver aujourd'hui, je crois que ça va être difficile. La mitochondrie, en fait, dans la cellule, c'est un petit peu la ressource énergétique de la cellule, entre guillemets. Donc, elles sont présentes dans la cellule. Il y a chaque cellule humaine, il y a un noyau, évidemment, avec l'information génétique, l'ADN, mais également différents constituants, dont les mitochondries. Et ces mitochondries ont également un ADN spécifique, qui est plus petit. Donc, on a voulu commencer d'abord à séquencer cet ADN mitochondrial. Et ces premiers travaux, en fait, bien, c'est assez intéressant parce que du coup, on se dit qu'on va pouvoir y arriver. C'est un terreau fertile pour un projet bien plus ambitieux qui va prendre forme en 1985, à savoir de créer une carte génétique exhaustive du génome humain. Et donc, ce consortium qu'on évoquait tout à l'heure naît en 1988 et avec l'idée de coordonner les efforts des scientifiques répartis aux quatre coins du monde. Le projet se donne 15 ans en 88 pour étudier le génome humain, mais aussi celui d'autres organismes modèles importants en biologie et en médecine. Et en 1995, les scientifiques de ce consortium se réunissent, pas n'importe où, ils se sont dit on va se réunir aux Bermudes, ça peut être sympa, et ils prennent une décision qui va tout changer, c'est-à-dire que lorsque le séquençage sera achevé, ils décident que celui-ci soit accessible à tous et soit accessible gratuitement. Chaque séquence décryptée devra être partagée dans une base de données Internet, ce qui forme donc un trésor totalement immatériel, parce que ce trésor, c'est bien sûr le patrimoine génétique de l'humanité. C'est ainsi que 3 ans avant l'échéance fixée, les premières séquences paraissent dans la revue Nature en 2001. Et que racontent-elles justement ces premières séquences sur ce fameux abîme insondable qu'on considérait comme étant le génome humain à cette époque? Eh bien, la première cartographie grossière du génome humain est en réalité composée du patrimoine génétique de plusieurs donneurs anonymes. Chaque donneur a donné son consentement avant que les scientifiques ne prélèvent chez eux des échantillons d'ADN. Et pour mettre en forme cette carte génétique, il a d'abord fallu couper l'ADN en 1000 morceaux. Les fragments d'ADN ont été insérés dans des chromosomes bactériens artificiels, et on va essayer de constituer une espèce de librairie quelque part de ces différents fragments d'ADN. C'est un petit peu l'idée qu'on pourrait séparer, stocker chaque feuille d'un livre séparément. Donc on a tout dispersé, et pour reconstituer l'ouvrage, eh bien, ces fameux chromosomes bactériens artificiels ont été séquencés de façon individuelle. C'est un petit peu comme si chacun lisait une page d'un livre, et après on a décidé de reconstituer l'ensemble du livre, et donc reconstituer l'histoire entière. La carte génétique constitue, qui a été obtenue, elle comprend environ un nombre assez important d'éléments, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que le génome était si long. Et alors on en est là, c'est une première esquisse, c'est un brouillon du génome humain, mais ça a permis d'identifier des points clés de notre patrimoine génétique. Déjà, on s'est rendu compte que ce patrimoine contenait entre 30 000 et 40 000 gènes. C'est un chiffre qui est toujours sujet à débat aujourd'hui, on n'a toujours pas tranché, mais on considère aujourd'hui qu'il y en aurait plutôt 20 000 des gènes dans notre patrimoine génétique. Il y a à peu près la moitié du génome humain qui est composé de gènes dérivés d'éléments transposables, et certains de nos gènes sont hérités d'un transfert horizontal de gènes avec des bactéries. Donc on est bien aussi sur l'idée d'une évolution aussi un peu transverse, c'est ça qui est intéressant. 2 ans de travail ont été nécessaires pour peaufiner cette première esquisse du génome humain. Les séquences finales ont été finalement publiées dans la revue Nature en octobre 2004, et depuis, les connaissances sur nos gènes, leurs implications dans des maladies, leur fonctionnement, et bien tout ça ne cesse de s'étoffer, bien évidemment. Il y a des informations régulières qui sont apportées. Actuellement, c'est la cartographie réalisée par un autre consortium en 2019 qui est considéré comme la référence de base pour la pour le génome humain. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle repousse un peu notre utilisation de la génétique humaine, puisque des ordinateurs sont capables de créer de toutes pièces des génomes humains qui ne correspondent au patrimoine génétique d'aucun être humain vivant. C'est-à-dire qu'on a créé un génome, on a décrypté le génome humain, et du coup, à partir de cette information, on va pouvoir essayer de lancer des recherches totalement faramineuses. C'était il y a 20 ans, il était important d'évoquer ça, bien évidemment, dans cette émission pour fêter cet anniversaire. Bienvenue sur Graphite. Vous nous écoutez sur internet, graphite.net et le 94.9 pour la bande FM. Biotine, émission de science, mais émission aussi musicale. On va écouter The Miserable Rich sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Just need something to steady my saint for every Connie man. Come down to steady mild knife throwing hand.
The Miserable Rich avec The Knife for Us sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va parler cette fois d'actualité liée au transport avec deux informations. La première, c'est cette interview de David Goeres qui est l'architecte technique du TGVM. Le TGVM, c'est lui qui va entrer en service dans 3 ans, en juin 2024. 24 et qui marquera la première innovation de rupture depuis le lancement du TGV duplex en 95. C'est un nouveau TGV plus écologique, moins coûteux, avec un meilleur confort et entièrement modulable. Et donc David Goeres, qui est l'architecte technique de ce TGVM, est interviewé sur le site de Futura. Et donc du coup, on va essayer d'en savoir un petit peu plus de cette interview. Alors, question qui lui est poser quels sont les avantages de ce nouveau TGV. Alors, il explique que nous avons défini 8 pistes d'amélioration, à savoir un prix d'acquisition inférieur de 20%, un coût de maintenance réduit de 30%, un bilan carbone amélioré de 32% par voyageur comparé aux rames actuelles, et un train qui est entièrement modulable avec une capacité accrue de 10%, un TGV qui sera entièrement connecté et une meilleure fiabilité et de maintenance prédictive. Ok, c'est assez prometteur. Alors, le train, on sait, est plutôt déjà réputé comme étant écologique. Alors, on lui demande, mais comment avez-vous encore pu améliorer son empreinte carbone ? Alors, ce qu'il explique, en fait, c'est que c'est un ensemble de petites choses. Un TGV pèse plus de 400 tonnes. C'est le plus gros poste de consommation énergétique consommation énergétique concerne donc la traction pour pouvoir déplacer cette masse importante. Donc, il a fallu travailler sur l'aérodynamique, sur le renvoi d'énergie vers la caténaire lors du freinage ou sur l'éco-conduite, mais aussi des améliorations sur le système de climatisation, sur l'isolation thermique, sur l'utilisation aussi de matériaux un peu plus légers. Et donc, Autre question, quelles sont un peu les astuces qui ont été mises en place pour réduire les coûts de maintenance ? Alors là, on est plutôt sur à la fois une simplification des pièces et même une idée d'une standardisation. C'est-à-dire que, par exemple, pour le châssis de la motrice, où il y a à peu près plus de 1000 pièces qui sont nécessaires, eh bien maintenant, il en faudrait 30% en moins, ce qui serait intéressant. Cela fait donc moins de pièces à entretenir, moins de risques de casse, et les pièces, elles sont également standardisées, ce qui signifie qu'on utilise désormais les mêmes pièces sur un TGV ou sur une rame de Transilien, par exemple, en région parisienne. On les achète donc moins chères et elles sont plus fiables parce qu'elles sont produites en plus grande série. L'autre grosse innovation, elle concerne la maintenance prédictive. C'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Nous sommes inspirés, en fait, dit-il, David Goeres, de l'aéronautique où les avions sont équipés de capteurs qui avertissent lorsqu'une pièce est usée. Et donc, au lieu de changer de façon préventive une pièce tous les 8 ans, par exemple, eh bien, ces capteurs connectés vont permettre d'étendre au maximum son utilisation. Et donc, du coup, on aura une meilleure... On n'est pas obligé de remplacer une pièce s'il y a besoin, ou peut-être essayer d'avoir une maintenance, un suivi de cette maintenance prédictive beaucoup plus opérationnelle et efficace. C'est donc autant d'économies potentielles, dit-il. Tous ces éléments permettent d'exploiter un train avec un coût 30% inférieur. Effectivement, ça peut être intéressant. Alors, on parle aussi donc de ce TGV comme étant un TGV modulable. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, il explique, cet architecte technique, cela veut dire que l'on peut adapter le train à la demande. Par exemple, transformer un espace première en seconde classe et inversement en une journée, remplacer des sièges par des cases à bagages lors des grands départs, par exemple, et grâce aux deux motrices de longueur réduite, eh bien, jusqu'à 740 voyageurs pourront être accueillis à bord. C'est donc entre 10 et 20% de plus par rapport au TGV duplex existant. Donc effectivement, pour des grands départs, ça peut être intéressant. Alors, on ne parle pas trop de vitesse dans cet aspect-là, et on lui demande pourquoi. Alors, il explique qu'on sait parfaitement faire rouler des trains à 360 km/h. On rappelle le record de vitesse sur une voie ferrée. C'est la SNCF qui détient ce record. C'était en 2007 déjà. C'était à l'époque 574 km/h quand même. C'est quand même assez fascinant, on se souvient. Aujourd'hui, sur le réseau, les trains roulent au maximum à 320 km/h. En roulant plus vite, on peut gagner quelques minutes sur le trajet. Mais au prix d'une usure trop importante de l'infrastructure. Et donc, l'idée, c'est en fait de trouver un espèce de bon équilibre en ce qui concerne la vitesse. Donc l'argument vitesse ne va pas être l'argument qui va être mis en avant pour ce nouveau TGV-M. Alors, on se pose la question aussi, parce qu'on a déjà évoqué dans cette émission, de cette technologie de train à suspension magnétique ou du fameux Hyperloop. Et on se demande si le train du futur, justement, ne serait pas un train qui pourrait utiliser cette technologie-là. Et en fait, David Goeres explique que lui, il ne lui croit pas beaucoup, parce que le train à sustentation magnétique, ça fait plus de 20 ans que ça existe et il s'est encore que très peu déployé, car le coût des infrastructures est bien trop important. Et puis l'Hyperloop, hein, ce projet qui est un beau projet technologique, il reste compliqué du point de vue de l'exploitation commerciale. Ah, parce qu'il faut essayer de construire un tube sur des centaines de kilomètres, il faut faire le vide dans ce tube, ça réclame une énorme quantité d'énergie. Et puis, il se pose des questions aussi sur l'aspect sécurité. Comment vais-je pouvoir évacuer les passagers coincés dans leur capsule en cas de panne ? Oui, effectivement, ça peut être une bonne question. Et donc, pour l'instant, ces projets, même si d'un point de vue technologique, ils sont intéressants, d'un point de vue modèle économique, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement viable. Enfin, dernière question. On se dit que le train de 2050 va ressembler quand même à celui de 2024. Et lui répond oui, en fait. C'est-à-dire que le contact entre la roue et le rail reste pour lui définitivement la meilleure technologie possible pour faire rouler un train. Par contre, on peut imaginer des nouveaux modes de propulsion, la batterie électrique, le train à hydrogène, peuvent être des technologies donc qui peuvent être déployées dans un futur proche. Il y a des prototypes qui ont d'ailleurs déjà été testés en Europe l'an dernier. Mais, dit-il, il faut se rappeler que la durée de vie d'un TGV, c'est 30 à 35 ans. Et donc, En comptant le temps de déploiement, eh bien, le fameux TGV-M qui sera donc mis en service en 2024 sera donc en service au moins jusqu'en 2070. Oui, effectivement, et donc c'est bien lui le train du futur et on le découvrira bientôt, ce fameux TGV-M, plus écologique, moins coûteux, meilleur confort et entièrement modulable. Ça, c'est donc l'information 1 pour l'aspect transport. Et autre information, c'est Michelin qui annonce des pneus 100% durables. L'idée du pneu durable fait son chemin depuis plusieurs années, notamment chez Michelin, à l'image du concept qui avait été présenté, qui s'appelait Vision sans air, connecté, rechargeable et 100% durable, qui avait été dévoilé en 2017. Mais aujourd'hui, seulement 30% des composants qui entrent dans la fabrication des gommes produites par Michelin sont faits de matériaux durables, d'origine naturelle et recyclés. Donc le défi est d'autant plus grand qu'un simple pneu comprend plus de 200 ingrédients. Le caoutchouc naturel, bien sûr, son pendant synthétique, du métal, du textile, du noir de carbone, de la Sicile. Et donc, au niveau du département recherche et développement de Michelin, eh bien, on essaye de trouver une formule magique qui permettrait, dans 30 ans, on estime aux environs années 2050, de proposer des pneumatiques qui seraient 100% durables, tout en continuant, bien sûr, de les rendre plus confortables, efficaces et sûres. Et donc, Michelin s'allie avec des startups spécialisées. Et Michelin entend bien également pouvoir recycler le plus rapidement possible le polystyrène, le noir de carbone, l'huile de pyrolyse des pneus usagés également. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, des accords, dont un qui a été signé avec une entreprise suédoise dans le cadre d'une toute première usine de recyclage qui devrait avoir lieu, qui devrait voir le jour au Chili en 2023. Il y a également le brevet d'une technologie qui permet de récupérer le noir de carbone également. Bref, le but avoué, c'est de pouvoir à terme recycler l'intégralité de chaque pneu en fin de vie. Et cette entreprise, en tout cas cette usine de recyclage, pardon, qui serait basée au Chili, devrait permettre de recycler environ 300 000 tonnes de pneus par an. Les technologies développées vont bien au-delà de l'univers du pneu et pourront alimenter d'autres filières qui bénéficieront elles aussi de matières premières régénérées et régénérables à l'infini. C'est ce qu'explique Michelin dans un communiqué. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on voit très bien les difficultés que connaît Michelin, notamment en ce moment avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui a été mise en place. Évidemment, on a moins circulé, donc on achète moins de pneus et ainsi de suite. Enfin, on comprend très bien la situation dans laquelle se trouve Michelin et ses concurrents actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue R&D, recherche et développement, on est sur toujours une recherche de performance. Et donc là, on est sur cette idée d'un pneu 100% durable qu'on pourrait voir d'ici 2050. Bon, là, c'est quand même déjà une échéance un peu plus lointaine, 2050. On sera allé sur Mars avant, normalement. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a été annoncé par Michelin il y a quelques jours par voie de communiqué de presse. Allez, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après pour continuer à feuilleter l'actualité scientifique qui nous concerne tous. Et on va parler de la première brasserie industrielle au monde. Elle a été découverte en Égypte. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was not the youngest one up there on the hills there climbing on. You went up with an open heart when they found you it was all but cold. Those hands they sing so long. Up there on the hills, there climbing on. You saw the light of gold
be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me on another side of Golden Rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your
Basia Bulat avec Golky Rush sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet, bien sûr en direct ou en différé, parce que vous avez eu cette idée géniale de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet, et vous suivez bien sûr l'actualité de Graphite sur la page Facebook. Deux informations qui va une nous faire remonter dans le temps et une autre qui nous fait remonter dans l'espace. Alors, dans le temps, c'est sur le site d'Abydos. Nous sommes dans le sud de l'Égypte où des archéologues ont excavé ce qui semble être la plus ancienne structure de production de bière à l'échelle industrielle au monde. L'établissement, que l'on date à quelques 3000 ans avant Jésus-Christ, aurait pu livrer apparemment 22 000 litres de bière par l'eau en Égypte antique. L'État fournissait aux travailleurs une ration quotidienne de bière en supplément de leur salaire. Ça a bien changé, ça, maintenant. On n'est plus du tout payé par de la bière. Et donc, l'idée, c'est que ces 22 000 litres permettait justement d'abreuver quotidiennement plus de 8800 ouvriers. D'après les archives archéologiques, un tel volume n'a jamais été égalé jusqu'à preuve du contraire. Alors cette installation était probablement construite pour alimenter les cultes funéraires des premiers rois d'Égypte, dans lesquels des rituels étaient menés à la fois pour les adorer en tant que figures divines et pour les soutenir au pays des morts. C'est ce que rapporte Matthew Adams, qui est le directeur du projet d'archéologie du nord d'Abydos, donc en Égypte, et on explique que cette brasserie d'Abydos est assez révélatrice du niveau de ressources dont disposent dès le départ les rois d'Égypte. Ces ressources incluent la production agricole et la main-d'œuvre disponible, et l'archéologue précise que ce sont ces choses qui ont permis aux rois de commencer à construire de gigantesques pyramides quelques générations plus tard. Ok. Alors, cette brasserie égyptienne se composait de 8 installations distinctes. Chacune d'elles contenait environ 40 grandes cuves en céramique qui étaient utilisées pour la cuisson lente d'un mélange un peu de céréales et d'eau. Et cette mixture était ensuite filtrée et fermentée pour obtenir de la bière, une bière antique, loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, ce qui n'aurait pas changé grand-chose au plaisir ressenti. En 2019, il y a des chercheurs en génétique qui observaient que notre attrait pour la bière serait davantage corrélé à ses effets psychoactifs plutôt qu'à son goût. C'est-à-dire qu'on se moque de savoir si la bière a bon goût du moment que c'est de la bière, en fait, c'est ça. L'excavation donc de ce site exceptionnel aura été finalement assez laborieuse parce que ce site a été fouillé pour la première fois il y a plus de 100 ans, c'était en 1912, par l'archéologue britannique Eric Pilt. Il a présumé qu'il s'agissait de fours pour le séchage des grains sans parvenir à s'en assurer. Et ce n'est qu'en 2018 que des chercheurs, dont Matthew Adams qu'on a évoqué tout à l'heure, ont pu retourner sur les lieux. Et parce que, en fait, depuis le passage en 1912 du Britannique Eric Pitt, eh bien, l'emplacement exact de cette trouvaille avait été perdu. On n'avait pas indiqué où ça se trouvait. Il faut quand même le faire. L'équipe en charge donc de cette seconde expédition qui retrace cette aventure sur un blog que vous pouvez lire en anglais stipule qu'entre-temps, des preuves en provenance d'autres sites suggéraient que ces fours à grains auraient donc en réalité servi à la production de bière. Et donc, l'année dernière, ces archéologues ont pu documenter la véritable échelle de ce qui est finalement aujourd'hui considéré comme étant une brasserie, la première brasserie royale, donc note cette équipe, car Abydos, dans le sud de l'Égypte, était un lieu réservé exclusivement à l'usage des premiers rois d'Égypte. Abydos est considéré comme la maison ancestrale de ces rois qui ont unifié la Haute et la Basse Égypte, faisant émerger un état pharaonique avec l'ère du roi Narmer. Cette brasserie s'ajoute à une longue liste de symboles du pouvoir royal, qui comprend donc les premiers temples funéraires royaux d'Égypte, où donc les offrandes rituelles étaient parfois des pots de bière en poterie. C'est ce qu'on nous explique. Donc on a découvert cette première brasserie industrielle au monde en Égypte. Et ça me fait penser aussi qu'on a découvert il n'y a pas longtemps à Pompéi le premier « fast-food » entre guillemets également. Enfin, le premier. On avait retrouvé dans les ruines de Pompéi un genre de « fast-food » également. Enfin, on découvre pas mal de choses en ce moment. C'est assez intéressant. Ça, c'était donc le petit voyage dans le temps. Et le petit voyage dans l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne qui débutera donc fin mars le processus de sélection de la quatrième promotion d'astronautes européens. C'est la quatrième promotion. Il y a eu celle de 78, celle de 92, celle de 2009. Et cette sélection devrait retenir 4, voire 6 astronautes. Alors ici, initialement, l'Agence spatiale européenne souhaitait recruter seulement 2 à 4 astronautes, mais sous la pression des États membres, vraisemblablement plus pour des questions de prestige que pour des opportunités supplémentaires de vol, eh bien le directeur de l'agence a été contraint d'augmenter donc ce quota. Donc on passerait à 6. Et avec cette nouvelle promotion, David Parker, le directeur de l'exploration humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne, a déclaré vouloir représenter toutes les parties de notre société et que la diversité au sein de l'Agence spatiale européenne ne doit pas seulement tenir compte de l'origine, de l'âge, des antécédents et du sexe de nos astronautes, mais peut-être aussi, dit-il, des handicaps physiques. Pour faire de ce rêve une réalité, parallèlement au recrutement des astronautes, je lance, dit-il, le projet de faisabilité des parastronautes, une innovation dont l'heure est venue, dit-il. Alors, pour l'heure, il est seulement question d'intégrer 1 ou 2 parastronautes. C'est horrible ce terme, je trouve, parastronautes. Donc, de les intégrer dans le nouveau corps d'astronautes de réserve de l'Agence spatiale européenne. Alors, comme cela a été précisé lors de la conférence il y a quelques jours, l'idée est d'inciter les personnes avec un handicap physique à postuler pour participer à une étude de faisabilité sur l'accès des vols spatiaux aux fameux parastronautes. Alors, comme le souligne Guillaume Wirtz, responsable de la gestion du Centre des astronautes européens dans une interview accordée au site internet handicap.fr, eh bien l'Agence spatiale européenne sélectionnera des personnes avec un handicap d'un ou des deux membres inférieurs, soit une amputation, soit une déficience congénitale, de préférence en dessous du genou, un critère technique qui est lié à l'adaptation du matériel, ou encore celle ayant une jambe plus courte que l'autre, et également les personnes de petite taille de moins de 1m30. Alors cette étude de faisabilité, elle doit démontrer que ces personnes sont capables de rejoindre la Station spatiale internationale en sécurité et avoir la même fonction que les autres astronautes. Et comme à chaque handicap correspond un certain nombre de problématiques, eh bien l'étude passera en revue les adaptations éventuelles nécessaires, soit dans les procédures, soit dans le matériel, pour s'assurer que le parastronaute travaille et exécute les tâches comme n'importe qui. Alors l'étude se focalisera également sur les vols à bord des véhicules Crew Dragon de SpaceX et également de Starliner de Boeing. Il est aussi question de voir si des aménagements intérieurs seront nécessaires. Ce qui préoccupe l'Agence spatiale européenne, en fait, c'est la capacité de ces parastronautes à s'extraire seuls de leur capsule dans une situation d'urgence sans mettre en danger les autres membres de l'équipage lors de l'abandon de lancement, par exemple. Alors, si cette étude se solde par une note positive, il ne fait aucun doute qu'un parastronaute réalisera donc un vol dans l'espace, voire à bord d'un complexe orbital. Peut-être pas un de ceux sélectionnés dans le corps d'astronautes de réserve, mais plus vraisemblablement un de ceux de la 5e promotion, donc dans quelques années à suivre, bien sûr. Mais voilà, l'Agence spatiale européenne veut voir si des personnes souffrant d'un handicap physique peuvent devenir astronautes. c'est assez louable et on suivra ça bien sûr. Et si vous souhaitez candidater, que vous soyez atteint d'un handicap ou non d'ailleurs, vous pouvez candidater si vous le souhaitez pour participer à cette promotion des astronautes. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine santé, une certaine envie également, mais ça peut être intéressant, renseignez-vous. L'Agence spatiale européenne recrute, allez-y, profitez-en. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et on terminera avec une dernière information sur l'antenne de Graphite. The wind that blows, quiet knows, the song is soft, the silence goes. To each thread, a secret said, the sun and moon on a wedding bed, a rope unbound, a treasure found, a healing ground, an island drowned. Between the right and the wrong, and I won't seek nowhere I find. Today is here, then gone behind. Tomorrow makes the past opaque. I've given all for true love. The tolling chime, the senseless mind, the whirling hand of the beat of time. And what of this for a traitor's kiss? And what of now for a beggar's bliss to fall? Pierce Faccini avec The Rain That Blows sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine pour l'actualité scientifique. On parle un petit peu de tous les sujets. On a parlé des transports, on a parlé d'espace, on a parlé de cette découverte d'une brasserie en Égypte qui date de 3000 ans avant notre ère. Et on terminera avec cette information un peu alarmante parce que l'actualité scientifique n'est pas toujours réjouissante. Et c'est ce nouveau cas de la maladie Ebola qui a été détectée en République démocratique du Congo début février. Il s'agit d'une femme habitant à Butembo. Elle s'est présentée au médecin avec des saignements de nez et quelques jours plus tard, elle a développé d'autres symptômes comme une fatigue, des douleurs articulaires, des douleurs gastriques, des difficultés respiratoires, des maux de tête. L'enquête épidémiologique révèle qu'elle a été en contact avec une personne atteinte d'Ebola et son mari serait un survivant de la flambée épidémique précédente. Donc son sang a été prélevé pour confirmer la présence du virus Ebola et le test est revenu positif, donc le 6 février. Le virus Ebola a bien été identifié. Seulement, la femme est morte 2 jours avant, le 4 février, après la détérioration rapide de son état de santé. Elle a été en contact avec plusieurs personnes. On estime à peu près à plus de 110 personnes qui ont fait l'objet d'un suivi rapproché. Face à l'apparition d'un nouveau cas de la maladie d'Ebola, les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont mis en place plusieurs mesures pour identifier les malades et limiter la propagation du virus. Le docteur Marie-Rosine Bélizer, qui est épidémiologiste de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, explique un petit peu comment les autorités locales se sont coordonnées pour détecter ce nouveau cas et le prendre en charge. Elle donne donc différents procédés qui ont été mis en place. Lors de la dernière flambée épidémique de la maladie, il y a eu près de 2300 décès qui ont été enregistrés pour 3400 cas confirmés. C'est énorme. Je rappelle les chiffres. 3400 cas confirmés. Et donc, sur ces 3400 cas, 2300 décès. Endigué en juin 2020, on en avait parlé dans cette émission, eh bien, c'était la seconde épidémie la plus meurtrière dans la région. Ebola revient. Ebola menace aussi la Guinée, où 7 cas ont été identifiés mi-février. Depuis, on a eu moins d'informations, mais en tout cas, ça se poursuit. Et sur ces 7 cas, il y en a 4 qui se sont déjà avérés mortels. C'est dramatique ce qui se passe, bien sûr, en République démocratique du Congo, ce qui nous prouve, là encore, que les virus sont véritablement un vrai danger et que la recherche doit continuer de poursuivre justement tous ces travaux pour essayer de pouvoir trouver des solutions. Mais on a énormément parlé, pour les raisons que l'on sait, du coronavirus depuis un peu plus d'un an dans cette émission. Là, bien sûr, on est aussi sur cette épidémie Ebola, mais qui est beaucoup plus mortelle, évidemment. Voilà, affaire à suivre, bien sûr. On a l'impression, en fait, que c'est un éternel recommencement et qu'on ne s'en sortira jamais. Souhaitons que tout aille pour le mieux. On se retrouve samedi prochain avec d'autres informations scientifiques, bien sûr. Merci de votre attention, de votre fidélité à nos émissions. On se retrouve sur l'antenne de Graphite, soit sur la bande FM 94.9 samedi prochain à midi, soit sur internet graphite.net. Et puis d'ici là, vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer l'ensemble des podcasts de l'ensemble des émissions de Graphite et de suivre, bien sûr, l'actualité au jour le jour de Graphite sur la page Facebook pour que vous puissiez être tenu informé également de la diversité des programmes qui vous est proposé. Je vous remercie, je vous retrouve samedi prochain pour continuer à feuilleter le grand livre de la science. À bientôt, merci, au revoir.